Radio Libertaire 89,4 MHz, dessous de scène magazine de la chanson et du spectacle vivant, comme à l'accoutumée, c'est fini nos histoires d'ouverture de magazines sur des versions des feuilles mortes, puisque là, War in the Gulf, The Song, et avec la joie, le plaisir d'avoir en face de moi, Vaquette, l'indispensable, docteur et science, vicomte de Gribeauval, le prince du bon goût de passage à Paris, et dans nos studios. Alors, War in the Gulf, The Song, là c'est le remix, la première version avait été écrite en
91, pile poil pendant la guerre.
Oui, à l'époque où l'Irak était vraiment le méchant, puisque c'était eux qui avaient envahi le Koweït.
Et exactement, et à l'époque où surtout 80% des Français étaient pour la guerre, alors que maintenant ils sont 80% contre la guerre, mais patience.
Oui.
Patience, car d'ici 15 jours, 3 semaines, 1 mois, bon, l'Irak sera vraiment redevenu le méchant, parce que comme par hasard, par exemple, Hans Blix aurait été assassiné par les Irakiens, bon, d'une balle qu'on ne sait pas d'où elle vient. Et voilà, donc il y a fort à parier que, par exemple, on peut imaginer qu'un incident se produise absolument par hasard, et qu'à ce moment-là, Chirac fait oui, dans telles conditions, on ne peut pas faire confiance à l'Irak et à Saddam Hussein. Il est temps que la communauté internationale prenne ses responsabilité et lui mettre un gros scud dans le cul. Et à ce moment-là, bien sûr, l'opinion française, qui n'est pas du tout versatile et qui sont que des gens très très intelligents, concernés politiquement et très très bien, diront d'un coup, c'est vrai quand même, hein, Saddam, parce qu'on dit Saddam, hein. On dit George Bush, mais on dit Saddam. C'est comme ça, c'est comme quand t'arrêtes un arabe dans un commissariat, tu lui fais Mohamed, voilà, quand t'arrêtes un ministre, tu le relâches. Tout ça pour t'expliquer que moi, qui suis carriériste, comme chacun le sait, qui suis un enculé intéressé par les gonzesses, les pognons, les BMW et la grosse paire de Nike, qui n'a pour seule ambition de remplacer Titov chez Ardisson. C'est pour ça que je m'entraîne à Radio Libertaire. Bon, c'est un peu plus cheap, je conçois, mais c'est un entraînement tout de même. Bien, de toute façon, déjà, là, je suis plus drôle que Titov. Tu vas me dire, c'est facile, bien. Donc, l'opinion française, disais-je, voilà, je me t'ai dit, je vais donc surfer sur cette vague qui, pour la première fois de ma vie, fait que 80% des Français sont d'accord avec moi, ce qui ne va probablement jamais se reproduire. Et je vais en profiter pour faire la grosse caillasse en vendant un tube, celui que tu viens d'entendre, un tube de bon goût. Tous les gens vont faire « Waouh, c'est un super rebelle, quoi. Il est vachement pour. » Parce que j'avais déjà essayé de faire le coup, moi, entre les deux tours de l'élection présidentielle. J'avais essayé de sortir mon Vive Le Pen. C'était pile poil à ce moment-là exactement ce qu'il fallait dire, puisque ça disait que le consensus mou à la con qui consiste à faire de Le Pen le seul ennemi et pendant ce temps-là va voter pour Chirac et maintenant à Sarkozy. Amis camarades abrutis, vous vous êtes fait enculer, mais vous êtes imbécile, vous ne vous remettrez même pas en question. Enfin, au fond de vous, vous avez un peu honte quand même à tout ça. Alors que l'indispensable, lui, par exemple, a voté Jacques Chirac, aussi. Mais uniquement au premier tour.
Bien. On ne l'avait pas fait ce coup-là.
Bien, donc, donc j'avais essayé de faire le même coup. Je m'étais dit, je suis pile poil dans l'actualité avec mon beau Vive Le Pen. J'arrive à la manif du 1er mai, je te jure que c'est une histoire vraie. Et j'étais pas venu pour faire la manif, entendons-nous bien, j'avais un rendez-vous à côté, bon, faut pas non plus abuser. Et j'ai un journaliste de télé qui me connaissait, qui me tombe dessus, alors Vaquette, t'en penses quoi de la manif? Ben je suis venu personnellement pour vous chanter mon nouveau tube, Vive Le Pen. Et je commence à chanter Vive Le Pen, et t'as tous les amis camarades rebelles, là, pas du tout consensuels, et qui sont des vrais rebelles, hein, puisqu'ils sont 80% dans la rue à penser la même chose, majoritairement, donc c'est vraiment la preuve que c'est des rebelles qui pensent contre. Bien, et donc je commence à chanter mon Vive Le Pen et les regards méchants, tout ça, etc. Alors moi, naïf, le lendemain, je vais voir mon producteur préféré et je lui fais un super tube, quoi, dans Tendance, faut surfer là-dessus. Là, faut dire la vérité, faut mettre le doigt là où ça fait mal. Et il m'a fait, oui, mais le format de titre, ça se vend pas en ce moment, puis ça va être passé, puis là. Il a ramé pendant une heure, donc il n'a pas accepté. Et là, brutalement, dis donc, le format de titre, ça l'intéressait sur War in the Gulf.
Alors, tiens, Vaquette, avec cette phrase quand même, malgré tout, de Sade, tu m'as fait connaître au moment du printemps bizarre un mec bien barré aussi, c'est le peintre Natto.
Oui.
Tu as toujours des nouvelles de lui?
Bah écoute, j'étais avec lui, j'ai passé une après-midi extraordinaire avec lui il y a quelques semaines, là. C'était extraordinaire parce que, je vais être sérieux un peu, oui, on a du temps, là, on n'est pas à la télé, on est moins pressé. Quand on fait ce que je fais, je vais être sérieux, tant pis. Quand on fait ce que je fais, on est nécessairement condamné à une très grande solitude, entre guillemets, hein. Pas forcément de pas de voir du monde, j'en vois plein. Mais on est dans des problématiques mégalomanes qui n'appartiennent qu'à nous et pas aux gens, pas aux autres. C'est-à-dire que les gens se posent pas les questions qu'on se pose de savoir est-ce que je vais rester dans l'histoire, comment faire, comment aller au bout de mon monde, quelle est ma spécificité. Ce genre de choses.
Et qu'est-ce que je fais à bouffer ce soir?
Voilà, mais ça, c'est des questions que les gens se posent plus. On n'a pas forcément les mêmes réponses d'ailleurs, parce que les gens ouvrent des congelés alors que moi pas.
Voilà, bon, on s'égare. Revenons à...
Oui, donc on vit donc d'une immense solitude qui peut sembler ridicule ou pas ridicule, c'est pas très grave, c'est une réalité. Et se retrouver face à un mec comme ça, qui d'abord est nettement plus vieux que moi, Nato, et ensuite qui a vraiment mis les mains dedans, c'est-à-dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas son travail, qu'on ait des doutes ou pas sur son travail, sa démarche, il l'a faite. C'est ça qui est amusant d'ailleurs dans notre parcours. Si ça se trouve, moi je me cours complètement, je suis un mauvais, je resterai jamais et je serai extrêmement médiocre. Par contre, la démarche, ceux qui ont l'extrême bonheur et le privilège de me connaître personnellement savent qu'elle est sincère et qu'elle fait son chemin pratiquement, quoi. C'est autre chose que des conneries et du blabla. Et donc me retrouver avec lui, bah oui, c'était génial parce que j'ai pu parler de choses. Les gens ils parlent toujours tout. Mais la transmission de l'expérience, c'est une énorme connerie. Tu peux dire à un gosse, mets pas tes doigts dans la prise, tant qu'il aura pas mis le doigt dans la prise, il saura pas pourquoi il fait. Il fait pas. Et à la limite, s'il fait pas sans jamais avoir mis les mains dans la prise, c'est vraiment un sale gosse de con de merde, ça veut dire qu'il est obéissant. Ce qui est atroce. Bon, donc faut. Par contre, l'intérêt, c'est que si on t'a jamais dit de mettre les doigts dans qu'il fallait pas mettre les doigts dans la prise, tu les mets, ça te brûle, tu fais. C'est un hasard. Faut je vais recommencer pour savoir si ça fait à tous les coups la même chose.
C'est pour ça que t'as les cheveux comme ça.
C'est pour ça, voilà. Tu as tout compris. C'est moi, j'avais un mauvais esprit, j'ai essayé 5 fois de suite. Et si on t'a dit, faut pas le faire, tu fais, ah d'accord, j'associe à ce qu'on m'avait dit. C'est ça le principe de transmission d'expérience. C'est-à-dire que, tant qu'on n'a pas vécu quelque chose, on ne sait pas. Par contre, le fait qu'on nous l'ait dit et qu'on nous l'ait transmis cette expérience fait qu'en le vivant une seule fois, on peut l'associer à ce qu'on a dit et on va plus vite. Bon, et donc tous les gens qui m'expliquent comment résoudre mes problèmes de création artistique ou de d'évolution personnelle, enfin toutes ces choses-là, et qui n'ont jamais mis les mains dans la merde ou jamais ce truc, ça me fait doucement rire. Hein. Là encore, je vais te faire une citation, comme ça je vais être bien relou. C'est Dubuffet qui dit « L'homme de culture a autant à voir avec l'artiste que l'historien avec l'homme d'action ». Quoi. L'historien, il va tout expliquer la bataille, mais enfin, il voit un flingue arriver, il se casse quoi, en couinant. Donc, c'est pas du tout la même chose. Bon, et être avec Nato, passer cet après-midi-là, voilà, il m'a dit des choses, il m'a transmis des choses, et je fais, ah, mais je suis pas le seul comme ça. Ça fait du bien, quoi. Je suis pas le seul. Et il m'a particulièrement, c'est pour ça que je faisais cette remarque aussi sur le Pidard, il m'a retiré tous mes complexes sur la thune. Voilà, parce que il m'a vraiment dit ce que je chantais intuitivement, mais qui est très 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 mal vu. Il m'a dit, petit un. Faut pas de pognon, quoi. C'est la chanson devant, passe pas l'argent dans ton dos. C'est-à-dire que si tu commences à rentrer et dire oui, mais je vais avoir un boulot à côté parce que quand même faut bien manger, mais tu te fais bouffer. Parce qu'à un moment, de toute façon, c'est trop dur ce qu'on fait. Donc si t'as le moyen, un moment, de pouvoir te reposer, re-rentrer dans la caverne pour avoir un peu de chaleur, tu sors plus dehors pour voir si t'es un homme, quoi. Donc voilà, première chose. Mais à l'inverse, il m'a dit, c'est le plus important, attention, hein. On ne devient pas des petits, des mesquins, des radins, tout ça. Hein. Ça surtout pas, quoi. On est des claqueurs fous. Moi, je suis un claqueur fou. J'aime les belles choses et les bonnes choses. Je claque. J'ai pas de thunes. Ça m'arrive plus souvent que le contraire. Mais putain, j'en ai. Ça part. Et rien à foutre, quoi. Et ça, c'est la classe. Et c'est Léon Blois, là, encore, tiens. Léon Blois, il fait ça. T'as un de ses copains qui lui a prêté un peu de thunes. Léon Blois, pour ceux qui connaissent pas, c'est un auteur merveilleux du 19e siècle, qui a écrit, entre autres, le mendiant ingrat. Mais c'est vraiment la phrase qui te définit, quoi. C'est le bel mec qui a la vraie vie marginale, quoi. Et il vient de toucher 3 francs, genre son de quoi vivre, tout son mois, quoi. Et l'autre vient lui réclamer exactement cette somme qu'il lui a prêtée, l'autre qui est pété de thunes, quoi, qu'on a rien à foutre. Et Léon Blois, il tente de lui expliquer, l'autre fait ouais, blablabla, etc., l'argent, c'est l'argent. Et Léon Blois prend tout ce qu'il a, il file, et lui fait vas-y, je t'ai rendu ton argent, quoi. Il a plus un sou pour vivre dans le mois. Voilà, c'est ça la classe. Et c'est exactement ce qui se passe. Autre anecdote avec Léon Blois, son père crève, il n'a pas une thune pour l'enterrer, et il va voir Paul Bourget. Paul Bourget qui est le Solers de l'époque, le mec couvert de prix que tout le monde connaît, tout le monde fait, c'est de la grande littérature, alors que Léon Blois, enfin franchement, c'est pas bien, puis de toute façon c'est tout à fait impubliable chez Pauvert. Bon, j'espère qu'ils écoutent Pauvert, parce que vous allez vous faire rhabiller pour l'hiver, amis camarades lâches. Bonjour Justine. Il vient réclamer de l'argent à Paul Bourget, qui est couvert de prix, couvert de thunes, couvert, c'est vraiment l'écrivain bourgeois. Et donc, au passage, toujours le discours vaquetien, aujourd'hui, plus personne lit Paul Bourget, alors que Léon Blois, on le lit. Bon, je vous incite aussi à réfléchir à ça. Bien, il va donc réclamer de l'argent pour enterrer son père, et Paul Bourget le jette comme un malpropre en disant, non, tu sais, en ce moment, j'ai pas trop d'argent. Toutes les phrases de gros con, enculé de bourgeois, elle est pourrie. Voilà. Je sais pas. Ah, donc, Nato est un type que j'aime beaucoup, qui m'aime énormément.
Tu peux nous le définir en quelques mots ?
Son travail ou lui ?
Les deux.
Mais son travail, moi je l'ai mieux compris en parlant avec lui. Alors il définit ça comme l'obscénité critique. Pour aller assez vite, mais c'est assez profond. C'est en ce sens-là où on se retrouve beaucoup, qu'on a des affinités. C'est-à-dire que son travail peut paraître absolument ridicule. Il monte sur scène nu, ça fait années 70, happening. Il balance des meufs à poil par-dessus ses épaules. Bon, on peut dire c'est un peu ringard, années 70, tout ça. Puis quand il te l'explique, tu t'aperçois que le parcours est beau parce qu'il est absolument sincère et qu'il est l'aboutissement d'un vrai joli rêve mégalomane comme le mien. Alors après, on a raison, on n'a pas raison, on verra. Mais rien que cette démarche, déjà les autres qui le font pas, camembert, voilà. Et donc lui, il part du principe que la peinture fait des jolis paysages. Van Gogh arrive, il fait le chant de corbeau, c'est-à-dire qu'il fait le suicide, mais il y a encore des jolis paysages. Les autres arrivent derrière, ils font, qu'est-ce qui est important, c'est le suicide, quoi. C'est pas les jolis paysages. Ils font la même chose, ils mettent la même couleur, la même truc, les mêmes couilles dedans. Et puis, là-dessus, merde, j'ai oublié son nom, le mec qui faisait les chiottes sur les toiles, là. Le mec qui détournait Duchamp. Bon. Duchamp arrive et il fait, il n'y a même plus besoin de toile. Voilà. Il n'y avait plus besoin de toile pour faire le sentiment. Et derrière, lui, Natto arrive, dit-il, et il fait, il n'y a même plus besoin de toile, il n'y a même plus besoin d'être peintre, mais je suis peintre. Et il suffit d'affirmer que je suis peintre et que la recherche, elle est purement esthétique pour que ça suffise. Ce qui est, peut paraître à plein de gens, forcément, mais c'est le bavardage, c'est l'eau, c'est des conneries, tout ça, etc. C'est bien de continuer à acheter des croûtes qui ressemblent avec des paysages, quoi, ou de la sous-culture que tu vois dans toutes les galeries à Paris où il n'y a rien, pas une once de colère, pas une once de rage, pas une once de choses, c'est pas possible. Bon. Donc voilà, ça c'est pour son travail. Quant au bonhomme, c'est un. Moi j'aime pas trop, ça m'intéresse pas trop. C'est un mec super. Hein. Il fait des choses merveilleuses dans sa vie, mais je trouve que c'est un peu relou de les raconter. Je trouve que on peut être la pire des crapules. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'œuvre d'un artiste, quoi.
Tu as reçu son petit opus dans lequel il explique, je sais plus comment il titre ça. L'annonce qu'il a passée parce qu'il cherchait des modèles.
Ouais, oh là là. Mais il m'a raconté ça.
Toutes les réponses des personnes qui cherchaient, pensaient que c'était un modèle pour peindre.
Ouais, mais il m'a expliqué aussi pourquoi. Il m'a expliqué tous les dessous de l'affaire. C'est-à-dire que s'il met ce qu'il cherche dans un journal, il est censuré. Voilà. Tiens, tu veux que je te raconte une anecdote piquante? Oui, je vais te raconter une anecdote piquante. Allez, au point où j'en suis. Par un hasard absolument complet, personne va me croire, mais c'est absolument vrai, par hasard absolument complet, je me suis trouvé à refaire une inscription sur un chat internet de cul. Bon, en fait, c'était une histoire de défi à la con, tout ça, machin. Bon, c'est pas grave.
Non, mais ta sexualité ne regarde
donc
que
moi. Donc, je commence à remplir, bien sûr, je remplis que des réponses intelligentes, du genre nationalité albanaise, profession secrétaire, revenu 100 000 euros par mois, bon, des conneries, et j'écris un texte de présentation. Et je me souviens même plus ce que j'ai pu mettre dans le texte de présentation. Putain, le lendemain, je reçois un mail. Monsieur, votre inscription n'a pu être acceptée. Un certain nombre de vos propos tenus dans votre texte de présentation ne sont pas conformes à la charte d'un truc, machin, etc. Donc je suppose que j'avais dû mettre des grosses conneries de cul et que t'as pas le droit. Donc ça me fait assez rire. Donc lui, il me dit, si je passe des annonces en expliquant strictement ce que je veux, je suis censuré. Voilà. La censure existe en France, faut quand même le dire, tout le temps. Je veux dire, si je suis pas chez Pauvert, ça je peux le dire, qu'on le croit ou qu'on ne croit pas, mais je peux amener la lettre de Pauvert. Hein, donc... Ils me le disent, ils me l'ont dit objectivement, ce qui est d'ailleurs tout à leur honneur.
Oui.
Je la gueule à eux, oui. Alors que c'est tous les autres sur lesquels je devrais cracher. Bah oui. Eux qui font, je veux dire que j'ai par exemple Phébus, que je peux citer, extraordinaire Phébus, qui m'envoie, alors là, la meuf de chez Pauvert, je lui ai raconté, elle était morte de rire, mais c'est extraordinairement drôle. Il m'envoie une lettre, à tout bien réfléchi, votre roman n'est pas aussi original que ça. Au revoir monsieur. C'est extraordinaire, c'est exactement le principe du révisionnisme. C'est-à-dire, t'as une évidence. Tu la refuses parce que t'en as honte, tu veux pas assumer tes contradictions à toi, alors tu nies. C'est strictement le principe du révisionnisme. Le révisionnisme, c'est je suis antisémite, donc je devrais être pour tuer des juifs, mais j'ai un peu honte parce que c'est mal vu. Alors je vais dire que c'est pas vrai. Ça m'énerve. Moi j'ai écrit une chanson très drôle qui s'appelle Vaquette, décidément Vaquette est d'extrême droite, et qui, pour vraiment retourner toutes les contradictions de l'extrême droite, parce que ça me saoule ça. Je veux dire, t'es d'extrême droite, t'es antisémite, t'es super content qu'on ait tué des juifs, t'assumes. Sinon, si t'as honte de voir tuer des juifs, t'as honte d'être antisémite, tu fermes ta gueule, t'es pas d'extrême droite. Dire, tu peux pas être tout le temps dans un camp et dans un autre. Tu peux pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Et c'est tout pareil, quoi. Les mecs qui te font, les Maigret ou les Le Pen qui se présentent aux élections. Dire, t'assumes, t'es antidémocrate, tu te présentes pas à des élections. Ces mecs-là, ils prônent de la rebellitude à la con, alors qu'ils ont le même conformisme et la même lâcheté que les autres. Les mêmes mensonges. C'est-à-dire qu'ils sont aussi menteurs que les mecs de dominants, que le monde ou tout ça, qui sont pour la démocratie, mais qui sont contre l'élection du fils, ou contre l'élection de Le Pen, ou contre l'élection d'Haider en Autriche. Et c'est les mêmes mensonges. C'est-à-dire que les uns, ils sont antidémocrates et ils se présentent aux élections, les autres, ils sont démocrates, mais ils veulent pas qu'on vote pour les uns. Enfin, la dose de trisomie qu'il faut à ces braves gens pour se pas se rendre compte de ce qu'ils disent, quoi. Les braves gens de Pauvert qui n'existent et qui ont comme seule existence de dire on a le prestige de Pauvert qui a eu son procès parce qu'on est la maison d'édition qui défend la liberté d'expression et qui objectivement censure un mec qui fait un roman entier pour défendre le sentiment libertaire et le sentiment de la liberté d'expression, mais comme elle doit être, c'est-à-dire pas en blabla, en le disant que j'y vais et je le prouve moi. Voilà.
Bon, au fait, on a fait du léchage de couilles pour exciter les gens, du teasing, pardon, pour évoquer ton roman. On n'y est pas encore, parce que j'ai une question. Le Printemps Bizarre, c'était une initiative vaquetienne. Oui. Il y a de cela quelques années, quelques autres printemps se sont écoulés depuis. Tu m'avais dit à l'époque qu'il y avait eu des velléités, que ce soit repris par d'autres, et depuis ?
Mais depuis rien, comme toujours dans la vie. C'est-à-dire que dès qu'il s'agit de bosser et de faire des choses sérieuses et de faire des choses difficiles en bossant, il n'y a plus personne. C'est-à-dire que le vrai système, de toute façon, on ne pas le Printemps Bizarre parce que c'est pas le dans le mood, c'est pas dans le truc dominant. Quant aux alternatives, vous êtes que des bandes de feignants bons à rien. Voilà. C'est ça la réalité. Moi je le dis parce que c'est quelque chose que je vis depuis 15 ans que je suis dedans. Je n'entends que des mecs, ouais, putain, faudrait changer le système. Ben on y va. Moi j'y étais pour le Printemps Bizarre, j'ai bossé 15 heures par jour pendant 6 mois, j'ai perdu un max de thunes avec ma thune à moi alors que j'en avais pas, je me suis battu comme un fou et la seule chose que j'ai gagné des amitiés, c'est vrai, j'ai gagné d'une certaine façon de truc, j'ai gagné aussi des inimitiés parce qu'il y a toujours ceux qui sont toujours bons à rien, ils sont toujours jaloux de ceux qui font quelque chose, toujours sur le même principe, voilà, et quand il s'agit de retrouver quelqu'un mais qui passe aussi 15 heures par jour, alors là il n'y a plus personne, il n'y a plus personne pour, oui pour faire blabla, aller dans des réunions, faire blabla ou faire des choses médiocres, mal organisées parce qu'on est cool et on est alternatif, bah ouais mais on n'arrive à rien, je veux dire ce qui m'énerve, pour bouffer moi je fais ça m'arrive de faire des doublages de films débiles, tu vois. Là récemment je viens de faire un film qui va sortir bientôt qui est une honte et j'ai eu honte de faire ça parce que c'est de la propagande américaine pour jeunes comptes trisomiques et chaque phrase est une honte par rapport à tout ce que je pense. Bon, moi je m'en fous, je le fais pour avoir de l'argent et à côté j'ai une vie qui me permet d'assumer ça. Ceux qui font que ça, j'espère qu'ils se sentent un peu moins mal que moi. Bon, mais ce qui est étonnant c'est que les gens que tu trouves là c'est des bons, ils arrivent à l'heure, ils repartent à l'heure. C'est pas des mauvais, ils viennent faire du bon boulot. Et si nous, les alternatifs qui sont tellement plus intelligents, tellement plus rebelles, tellement plus lucides, tellement plus contre, on arrivait à faire la même qualité de boulot, comme on est plus imaginatif, qu'on a plus de choses à dire, comme c'est nous qui marquons l'époque, mais on les enculerait comme on voudrait. Mais c'est vrai, on les enculerait comme on voudrait. Si demain on sortait si demain Radio Libertaire faisait la qualité de France Inter en termes de qualité, mais ça aurait un vrai public. Et les idées libertaires sortiraient. Je veux dire que ce qui empêche d'écouter Radio Libertaire, c'est que c'est n'importe quoi. Voilà.
La preuve.
La preuve, alors David Baquette déjà. Que le monde diplomatique, voilà un exemple. C'est un vrai truc qui pousse des vraies pistes alternatives. On peut pas être d'accord sur tout, on peut trouver que ça a passé loin. Culturellement, c'est une merde infâme, ils en sont encore à des choses de 1930, mais politiquement, ça pousse des choses. Et c'est bien fait, et ça arrive à trouver un public. Voilà. Moi, je voudrais que les alternatives... Pour moi, être alternatif, ça ne veut pas dire être un carré mauvais. Ça veut dire justement être au-dessus, pas en dessous. Donc, et cette idée toujours... Ouais, mais c'est ce qu'on n'a pas, d'argent. Moi, le Printemps Bizarre, ceux qui ont connu le boulot que j'ai fait, j'avais pas une thune. J'ai fait ça, vraiment, aucune subvention, aucune aide. Pas une thune, ma pauvre thune à moi. J'ai bossé, il n'y a pas beaucoup de festivals, même avec 100 000 ou 200 000 balles de subvention qu'on fait aussi bien. Donc quand tu bosses, que tu te casses le cul, que tu mets du talent, le graphiste, c'était Franck, mon graphiste, qui est un mec génial, qui a tout fait évidemment gratos, qui a bossé, qui a du talent. Alors lui à côté, effectivement, il fait les grosses pubs Vittel, Marlboro, tout ça pour gagner de la thune. Ben ouais, mais ces grosses boîtes-là, elles se trompent pas, elles prennent les bons, et elles savent que les bons, on les achète avec de l'argent. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu en étant en doublage pendant 3 jours, c'est que... Ils savent bien choisir le demi-monde. Les mecs qui ont un vrai petit talent, parce que les mauvais, ils n'ont pas envie. Petit talent, mais qui sont prêts à se faire acheter. C'est-à-dire qu'ils vont pas acheter Vaquette, parce qu'ils savent que si Vaquette, on le fait le responsable du film, le pauvre film, ça va pas être possible, quoi. Il va foutre la merde, Vaquette. Mais il y a des tas de gens aussi qui sont bons. Voilà. Donc, je sais que ce que je dis doit pas être très consensuel sur plein d'auditeurs, j'en ai rien à foutre. Moi, je pense avoir fait plus avancer les choses avec le Printemps Bizarre et plus avoir prouvé des choses que les 3552 réunions avec des reprises de Léo Ferré et des pots autour de débattre si l'Espagne franquiste, c'est mal ou pas, 72 ans après, tu vois. Prochain spectacle s'appelle Crevez tous, hein, donc préparez-vous.
Ah bon. Et qu'est-ce qui te reste comme souvenir alors du Printemps Bizarre? À part l'ardoise, parce que finalement, nous, on s'en fout.
de souvenirs ou ce qui me reste. Ce qui me reste, c'est d'avoir fait mon devoir. Tu vois, ça, je suis très sérieux. Ce qui me reste, c'est d'avoir fait mon devoir. Voilà, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai bien fait. Je veux dire que si chacun, il n'y a pas besoin, hein, s'il y en avait 20 qui chaque année font printemps bizarre serait un truc énorme. 20, c'est pas beaucoup. Il n'y a pas que le printemps bizarre dans la vie. S'il y en avait 20 qui font un journal alternatif, 20 qui essayent de faire. Tu vois, s'il y avait 200 ou 500 Pierre-Carles, Vaquette, des gens comme ça, putain, le système il tiendrait, le système il casserait, le système il casserait. Voilà. Parce que le système il est complètement faillible. Et si il y avait, tu vois, un mec dans une maison d'édition qui fait faux pousser Vaquette là, et puis un autre faux diffuser Vaquette là, et machin, hop. Et ça, c'est vraiment... Moi, j'ai écrit une phrase que je pense que les gens qui connaissent Vaquette connaissent. C'est vraiment le slogan vaquettien. C'est « Il n'y a pas de méchant système, il n'y a qu'une somme d'individuels lâchetés. » Je la renie pas, j'ai envie de me la faire tatouer en rouge dans le dos. Comme ça, le jour de ma mort, je verrai si je me suis trahi ou pas. Et ça, ce sera un joli test. Voilà. Il n'y a pas de méchant système, il n'y a qu'une somme d'individuels lâchetés. Si chacun a le courage à un moment... de faire juste le petit acte qu'il a à faire, quand on leur dit c'est pas vrai que le pot vert va s'écrouler s'il publie Vaquette, c'est pas vrai, ils sont trop gros, mais allez faire une plus petite maison d'édition. Ouais, la petite maison d'édition elle va avoir des ennuis, parce que le pauvre petit mec qui travaille dans son salon qui voudra faire Vaquette, lui il pourra pas, parce qu'il va avoir 5 connards du Bétard qui vont arriver, il sera obligé d'arrêter. Mais pot vert, les mecs du Bétard, ils vont pas débarquer chez pot vert, hein. Jamais ils débarqueront chez pot vert. Ils feront un procès via leur bras armé du Lyon de Jean Vive de France, tout ça. Et ben là on les attend. Parce que comme ces braves gens, maintenant, ils savent plus faire que des procès à Besancenot, au Monde Diplomatique, à Daniel Mermet et au Vert, peut-être qu'au bout d'un moment, on va voir qui est les fachos, quoi. Je crois que maintenant, tout le monde l'a vu. Je veux dire que je pense que ma chanson « Mort aux Juifs », pour ceux qui ont essayé d'écouter et de comprendre ce que ça voulait dire, et qui se disent un peu rebelles, je pense que ça choque plus personne. C'est fini, quoi, leur terrorisme à la con, là, on n'a pas le droit de dire le mot « juif », ça va, plus personne y croit. Je veux dire, Israël est un État facho. Moi, je le dis et je pense que tout le monde le sait et le pense maintenant. Enfin, tout le monde, entre guillemets, dans nos milieux.
Vaquette, continuons. Je veux être grand et beau. Bilan du spectacle, je veux être grand et beau.
Pareil, je vais te faire encore rire. Je pourrais te répondre la même réponse à la con, le sentiment d'avoir fait mon devoir. Mais c'est un truc dont je suis très fier. C'est le sentiment... Ouais, je vais le dire. C'est le sentiment que maintenant je peux mourir. Ça peut paraître con, j'ai pas du tout envie de mourir, j'ai envie de continuer, je vais continuer à produire des trucs.
De toute façon, n'importe quand tu peux. Hein.
Oui, c'est le sentiment d'avoir fait un truc. Je vais pas te dire parce que j'ai fait grand et beau, je suis Picasso et je suis le plus grand auteur du siècle. J'existe, voilà, le truc existe. Ça a marqué une étape, les gens qui l'ont vu, c'est pas un truc comme les autres. C'est un truc qui va rester. Ça d'abord, c'est pas un truc comme les autres. C'est la première fierté que t'as quand t'es un artiste, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun spectacle qui ressemble de près ou de loin à ça, ni dans la forme, ni dans le fond. Ça, je suis prêt à le parier. C'est moderne. Et c'est pour ça que ça restera. J'ai le sentiment d'avoir fait une marche, d'avoir fait un acte artistique. Un peu comme le Printemps Bizarre est un acte politique. J'ai l'impression d'avoir fait mon devoir d'humain et de rebelle, de pas avoir accepté la vie qu'on m'a dit et de passer à travers la vie en disant bah, finalement j'ai un peu trop servi à rien, mais c'est comme ça parce que non. Voilà, maintenant j'ai pas le sentiment non plus d'être Néron, le plus grand mec du monde, que j'ai tout changé au monde et que j'ai pas, non. J'ai le sentiment modestement d'avoir fait ma petite pierre. Mais s'il y avait ne serait-ce que 10%, même 1% des gens qui faisaient la même pierre avec la même exigence, le même tout et tout, je te dis, le monde il serait vraiment différent. Voilà, on peut bouger. Moi je suis sûr qu'on peut bouger les choses. Mais on bouge les choses individuellement, en poussant son doigt, en faisant mal. Voilà, ce qui fait changer les choses, c'est l'entarteur, c'est Pierre-Carles.
Dans Je veux être grand et beau, il y avait deux côtés sur la scène, un rouge, un noir, si je me souviens bien.
Il y avait deux univers visuels, il y avait un côté rouge et noir avec deux côtés, un côté noir et un côté rouge, puisque tout le spectacle était latéralisé, et après le décor basculait pour tous les interludes sur un décor rouge et jaune. Donc, en fait, oui. Il y avait deux univers qui se répondaient, qui étaient dichotomiques et qui en même temps voulaient montrer que c'était le même, puisque là, on est au fond de ce qui est Vaquette, c'est-à-dire le premier de la classe qui se fait virer de partout, le rigolo provo un télo, quoi. Le mec qui peut être à la fois ultra un télo chiant et rigolo provo agaçant, insupportable. Et montrer que cette dichotomie, en fait, est très unitaire. C'est parce qu'on est lucide et qu'on voit les choses comme elles sont qu'on est à la fois... on révolte par rapport à ça et qu'on s'en moque, quoi. C'est impossible d'être au premier degré. C'est impossible d'être au premier degré quand tu vois les choses. C'est-à-dire, si t'es au premier degré, t'as vraiment aucune distance, tu deviens tout à fait suicidaire. C'est pas possible.
Et qui est-ce qu'on retrouvait dans les deux univers comme nom?
Costal.
Si tu peux accéder, oui. Si tu peux accéder au rang de vaquette, tu l'as pas mis dans ton questionnaire, mais.
Et c'est qui vrai, est poser cette question, c'est pas con.
Oui.
Quand je vais changer les questions, tout à fait. Non, c'était Costal, mais exactement. Alors là, pour une raison, et Costal, mon excellente metteur en scène, avait trouvé un artifice qui était vraiment bien vu. Donc tout le spectacle était latéralisé. Et comme bien sûr, je regardais le public. Latéralisé, ça veut dire que dans toute notre culture, la gauche est associée au mauvais côté. Hein. En latin, c'est sinister,
sinistre,
ce qui donne sinistre. Et on dit par exemple quelqu'un de gauche.
Qu'il est maladroit.
Voilà, parce qu'il est maladroit, et c'est la gauche. Et à l'inverse, avoir de la dextérité, dexter en latin, qui veut dire droite, et quelqu'un de droit. C'est le même mot, c'est la même racine au départ. Quelqu'un de droit et quelqu'un d'adroit. Donc tout notre univers est latéralisé, la gauche est le côté de la nuit, la droite est le côté du jour, la gauche est le côté de la femme, la droite est le côté de l'homme, et c'est vrai ça. Toute notre société est complètement latéralisée. Mais comme je regardais les gens, ce qui était à droite pour moi était à gauche pour eux, et vice-versa, donc en fait, Vaquette était, par cet artifice-là, disait, voilà, tout ce qui est bien pour vous est contraire pour moi, bon, c'est un truc. Et alors l'idée qu'elle avait eue, qui était géniale, c'était de prendre Costal, et ce personnage était dos au public. Donc en fait, c'était dans le même sens que public. Donc là, il y avait une inversion de l'inversion. Et il était en dialogue avec Anna Karénine, puisque c'était un duel à mort entre une femme et un homme, c'était le chapitre 5 sur l'amour. Et donc, en fait, les deux se tournaient le dos, et les deux avaient une inversion de valeur. Et c'est pour ça que Costal, il pouvait être des deux côtés. Parce que si je retournais par rapport au sens du spectacle, c'était de l'autre côté, mais par rapport à son sens, c'était de l'autre côté. Et en fait, c'était pas, et bien sûr, c'était pas du tout vain. Et ça, c'était une façon pour moi de dire que dans ce personnage qu'il représentait, c'est-à-dire le macho, mais à la fois le macho libre, il y a un côté atroce, parce que c'est un salaud complet égoïste. Mais en même temps qu'il y a un côté très bon, parce que lui au moins il assume qui il est et il n'est pas dans le compromis de ce qu'est le couple. Voilà. Et je voulais être, voilà, moi je voulais dire je tranche pas. Lui au moins, voilà, au moins il a le courage, il a le courage de vivre conformément à lui. Voilà. Alors, et ça c'est un discours récurrent de Vaquette. Vaquette qui aime bien dans sa littérature, pas forcément dans sa vie à lui, mais qui aime bien ou qui va défendre les fachos, les assassins et ça, les gens qui ont au moins le courage, les terroristes, qui ont au moins, les gens sont tellement, je préfère à la limite dans mon discours vaquettien, pas forcément dans ma vie, mais dans mon discours vaquettien, un salaud qui pense tout le contraire de moi, mais qui au moins a le courage de l'assumer et qui va au bout, je trouve ça beaucoup plus beau. Mais ça, c'est une pose esthétique, c'est pas une pose morale. C'est
oui,
une pose
t'es voltairien, toi.
Quoi ?
T'es voltairien.
Non. Non, pas beaucoup.
Je ne suis pas d'accord avec vous.
Mais oui, mais ça, c'est ce jeu. Alors ça, sur cette phrase-là, non seulement je suis d'accord, mais moi, je le prouve. D'ailleurs, toi, là-dessus, t'es l'un des rares rédimables. T'es l'un des rares à l'avoir fait. À l'époque où t'étais même pas d'accord avec moi, tu m'as même invité pour m'exprimer, c'est bien. Vaquette te donne un sapé testicite et puis il va bientôt te pincer l'oreille, fais attention. Et après, il va t'enculer. Voilà. J'en étais où oui, et donc Vaquette, d'un point de vue esthétique, c'est ça. Je préfère encore quelqu'un qui est tout le contraire de ce que je pense moi, mais qui a le courage d'aller au bout, plutôt que tous les gens qui sont pour moi, mais qui font tout le contraire de ce qu'ils disent. Genre, Pauvert, on est super cool, votre roman, il est génial, mais on va pas le publier. Parce que vous comprenez, c'est pas possible, puis c'est de votre faute, vous avez pas qu'à aller aussi loin.
Alors, le texte de Je veux être grand et beau, on peut encore le trouver, le fascicule, on peut te le commander.
Oui, il est en vente sur le site, ça j'en suis sûr. Je crois qu'il en reste plus à la librairie libertaire, parce qu'ils en veulent plus. Ça se vendait pas assez.
Sur le site, on retrouve aussi quelques-uns de tes billets du Vaquette, en réel audio.
Ouais, alors je voulais mettre l'intégrale, mais après, le site est déjà très très lourd par rapport à un site classique. Hein. Et après, ça devient un boulot de fou. Et le site, pour moi, c'est un moyen, pas une fin. Donc, si à la fin, je commence à passer 12 heures par jour pendant 3 mois au lieu de faire au lieu d'écrire Crever tous, ça me semble pas intéressant. Donc, on trouve une sorte de best-of. Mais si toi, à la limite, tu qui les connais beaucoup mieux que moi, mes billets, ça t'amuse de faire ton best-of ou ta sélection, moi, ça, je veux bien. Voilà. Et à ce moment-là, il y aura, même, on peut faire une petite page, une sous-page, la sélection de Choquet, enfin, une connerie. Moi, au contraire, le but du jeu, c'est de diffuser au maximum les trucs. Hein. Donc, alors, moi, j'ai mis, en particulier, ma préférée, pour ceux qui restent sur le site, c'est celui de la mort de Mitterrand. Ça qui a été pour moi, ça a été j'ai pas toujours aimé beaucoup, ces chroniques, tu le sais, mais ça a été un vrai moment, puis un vrai acte. Parce que là, on était, vraiment contre et ce qui devait pas se faire. Voilà. Ça, j'aime bien. Je pense que ça a dû choquer plein de gens. Comme par exemple sur la dernière encyclique. Encyclique, c'est le mot vaquettien pour dire un newsletter de l'indispensable. Sur la dernière encyclique, j'ai mis des conneries sur la petite Estelle. Oh, j'ai eu des mails de plaintes. Genre, là, Vaquette, t'es limite. Oh, ça, j'aime bien.
Ah non, tu dois pas aimer d'être limite, tu préfères être au-delà.
Oui, voilà, mais limite pour eux, dans ces gens-là, c'était dans l'autre côté de la limite.
Oui, donc cette aventure des billets du Vaquette, on en a eu plus de 100, si je me souviens bien.
Ah oui, je crois même beaucoup plus. Je crois qu'on était à 200, je crois.
Oui, c'était un exercice intéressant pour toi, de pondre chaque semaine quelque chose, enfin par paquet de 4, tu me les envoyais.
Non, c'est pour moi, c'était très... C'était bizarre, c'est-à-dire que quand j'ai eu l'occasion...
C'était pas pour l'argent, hein, parce que...
Oui, non, voilà, c'était ça, c'était ce qui me sauvait. Quand je les ai réécoutés, moi, en fait, ça me fait bien rire. Je suis content de les avoir faits. Et puis, je me dis, encore ce que je te disais tout à l'heure, toujours le même discours mégalomane, c'est peut-être pas génial tout ça, mais ça, c'est unique. C'est-à-dire que sur une radio, j'ai jamais entendu ce ton-là, aller au bout de ça, c'est incroyable.
Tu veux dire que c'est plus dur que du Philippe Gueluc ?
À peine ! À peine. Et moi, j'aurais vraiment aimé que ça soit sur une vraie radio, entre guillemets. Tu vois, j'aurais vraiment aimé que ça soit comme la minute de Monsieur Cyclopède. Il y a des tas de gens qui voient ça et qui font blanc et qui meurent, tu vois, qui fassent c'est quoi le numéro de la télé qu'on appelle. Géraldine, c'est quoi ce type, appelle la police. Et bon, donc ce point de vue-là, je suis fier. Ce que j'étais pas très fier, c'est la façon de le faire. C'est-à-dire, je me suis toujours dit et toujours promis. Et peut-être que ça, je serai parjure aussi, et on me le rappellera, de jamais écrire à la commande. C'est-à-dire, je veux pas faire ce côté que c'est pour ça aussi que je suis passé à d'autres formes, que je fais un roman et un spectacle, parce que j'aurais pu tomber, quand je commençais à avoir un petit nom, ou commençais à avoir que les gens s'habituaient à ce que Vaquette, c'était la chanson de mauvais goût, j'aurais pu écrire tous les ans mes 10 chansons, alors j'aurais fait les nouvelles guerres en cours, la nouvelle affaire cracra sur les pédophiles, puis j'aurais fait des chansons rigolotes sur les pédophiles, tout ça de mauvais goût. Bon. Puis je serais devenu le nouveau Ludwig von, bon, que j'adore au passage. J'adore Ludwig et j'adore Karim. Donc, c'est pas surtout pas pour cracher dessus, mais je veux dire, je serais resté dans cette tradition-là. Et je m'étais dit non, ça je veux pas faire, je veux pas arriver à ma table et faire comme ils font tous. Oh, le problème de la feuille blanche, je devais sortir mon album dans 3 mois, c'était vachement dur de faire 10 chansons, puis peu à peu je me suis remis dedans, et puis j'ai trouvé comment refaire une chanson. Alors ça, je me suis juré de jamais faire ça. Je me suis dit, voilà. Quand les choses, l'autre jour j'ai fait un dîner, c'est mal passé, je suis arrivé chez moi, Vaquette encule les vieux PD de synchro. J'étais content. J'ai écrit ma chanson, elle est sortie toute seule, c'est un truc d'insulte. Voilà. Je me suis promis que ça ne sorte que comme ça, que quand ça vient des tripes et que j'ai envie, un truc sincère. Ça peut paraître une pause con, mais je crois que c'est vrai. Et ce qui me faisait chier dans les billets, c'était ça, c'est je dois sortir un billet. Même si j'ai rien à dire là, qu'est-ce que je vais pouvoir dire et sur quoi cracher? Ah, ça ne m'était pas très à l'aise. Alors comme tu l'as finement fait remarquer, le fait que je n'étais absolument pas payé du tout fait que ça m'ôtait de la culpabilité. Sinon, je pense que j'aurais fait ça pour l'argent. Au bout d'un moment, je referais voir de Nick. Mais voilà, c'était pas forcément quelque chose. C'était une contrainte, quoi. Je l'ai vécu un peu comme ça. Mais bon, d'abord, c'était pas trop, sinon j'aurais arrêté. Et puis ensuite, après coup, je suis content de l'avoir fait. Je suis content d'avoir marqué des trucs. Je veux dire que chacun crève. Quand tu parles avec les gens, c'est ça qui me sauve. C'est qu'on peut me faire chier, mais j'en ai rien à foutre. Moi, je parle avec les gens et je les vois, les gens. Ils crèvent de rien faire de leur vie. Tous. Alors il y a ceux qui sont vraiment très très bêtes et qui ne savent pas et qui s'endorment le soir en ayant mal au ventre. Donc leur ventre le sait, mais ça passe même pas par la tête. Et puis ceux que ça passe par la tête, c'est peut-être un peu moins douloureux dans le ventre, mais c'est douloureux dans la tête. Donc moi j'en ai rien à foutre, mon discours est mégalo, il est mal séant, c'est mal. J'en ai rien à foutre, vous crevez tous de faire ça, de pouvoir vous retourner et dire je suis fier de ce que j'ai fait de ma vie. Moi je suis fier de ce que j'ai fait de ma vie, j'ai 33 ans, j'ai fait le printemps bizarre, j'ai fait jouer de grand ebook qui est un beau truc, j'ai Vive Le Pen, la chanson qu'on voyait tout à l'heure, je suis fier de faire ça. Il n'y a personne qui en France dit autant de trucs en mettant le doigt dessus, en étant rigolo en plus dessus, ça je suis sûr. N'importe qui peut me faire chier, je suis sûr, on est quand même dans c'est autre chose que les merdes, le genre le groupe à la con qui fait ah je suis un petit chanteur anarchiste et je vous ai pondu une petite chanson anarchiste. Donc voilà, tu vois ce que je veux dire là.
Non.
Mais si qui bosse dans un chapiteau, tout ça, comme tous les avec la musique, accordéon de maintenant. Non, le truc musette, la pseudo-anarchiste à la con, là. Putain, les gars, elle est crevée, quoi. Vous dites rien. Attention, je vais balancer un truc anarchiste. Mais vas-y, j'attends, ça fait 40 minutes que j'écoute ton album, j'entends des conneries, et en plus, tu me fais 3 balades sur l'amour sympa au milieu parce que tu veux quand même plaire aux midinettes. Crevez. Bon, crevez tous. Donc, c'était le titre de mon prochain spectacle. Voilà. Moi, je suis fier d'avoir fait mon Vive Le Pen. Ça fait mal et les autres l'ont pas fait. Je suis fier d'avoir fait Je vais être grand et beau, formellement et à tout point de vue, est-ce que ça balance. C'est unique, c'est un truc. Je suis fier d'avoir fait Le Printemps Bizarre, que t'es un acte. Je suis fier aussi d'avoir fait les chroniques, il y avait un ton, il y avait un truc. Je suis fier d'avoir mon parcours, voilà. Même les trucs extérieurs, à la con, je suis fier d'être champion de Seine-Saint-Denis de natation. Je suis fier d'être norvalien. Je suis fier d'être passé par le Collège de France. Parce que je fais aussi mes chansons à la con. Sinon, si j'étais un bon petit singe, bon élève, vous pouvez crever. Mais je suis content, voilà, d'être ni dans un camp, ni dans un autre. C'est ça, c'est ma plus grande fierté. Je suis pas du côté des alternatives pourries qui sont feignants, qui se lavent pas et qui sont bons à rien et qui ont jamais eu de diplôme et qui la seule chose qu'ils savent faire c'est copier du sous Léo Ferré, alors que Léo Ferré lui il avait du talent, mais c'était il y a 40 ans les gosses là. Et je suis pas du côté du système et je crois l'avoir prouvé. C'est-à-dire tous les gens qui vont faire ouais tu nous insultes les alternatives, ouais mais moi j'ai prouvé. Qu'est-ce qui vient de me faire chier? Ça fait 15 ans que je le fais, ça fait 10 ans, il y a personne qui peut me dire que j'ai dérogé une fois la morale, que j'ai fait une bassesse, une saloperie et que j'ai été une fois du côté des bourgeois facho complices. Vas-y. Qui me cherche?
Eh, t'es fier aussi quand même, malgré tout, quand en bagnole t'es avec quelqu'un et que t'écoutes Radio Libertaire et que tu tombes sur oh, ils ont foutu un de mes billets sur une
ouais,
des
ouais,
enfin.
Ouais, là c'est de la pure vanité. Tu as raison. Et il y a un des plus beaux romans que j'ai lu de ma vie, un des plus beaux textes que j'ai lu de ma vie, et qui comme
et
par.
Et qui n'est pas de toi.
Non, et qui n'est pas de moi, non, mais Vaquette n'est pas uniquement. Ça, c'est une. Ça fait parmi des fausses légendes stupides de croire que Vaquette. Vaquette, il y a une phrase de Blair que j'adore où il fait pour en aimer quelques-uns, je dois bien détester le reste. Voilà. Moi, tous les autres, ils font ouais, que c'était mégalo, puis t'as pas le droit de cracher sur tout le monde. Mais ils aiment rien. Ils trouvent tout, c'est tout le temps la l'eau tiède. Tout est bien. Oh, c'est pas mal, etc. Ben non, moi, je trouve que justement pour dire ça, c'est bien, c'est parce qu'à côté, j'aime pas. Et j'en aime quelques-uns. Voilà. Et donc un des plus beaux romans, tu ne feras pas perdre mon truc, un des plus beaux textes que j'ai lu de ma vie, et qui comme par hasard, dis donc, n'est pas publié, c'est bizarre, hein, c'est un texte du peintre Van Dongen, qui est un peintre que j'adore en plus, et en plus qui a eu une vie, alors lui, ultra sulfureuse aussi, avec pute, pas de thunes, clochard, plein de thunes, palace, enfin, tout ce que j'aime de la vie, quoi. Et qui a écrit une vie romancée, une bio de Rembrandt. C'est un tout petit texte qui se lit en une demi-heure. C'est un bijou, quoi. Je le fais lire aux gens qui sont chez moi parce que je peux pas le prêter de peur de le perdre vu que c'est introuvable. C'est genre une plume. Rembrandt, il est pas content. Il est déjà petit, il est pas content. Alors il sort dehors, il court, mais il sent bien qu'en courant, je le fais au hasard, hein. Il sent bien qu'en courant très fort, ça lui suffira pas. Alors il se met à peindre. Et puis il fréquente les putes. Il aime bien les putes. Et ça dit tout, quoi. C'est ce que comme je disais tout à l'heure, que sur Nato, ça dit tout ce qu'il y a en nous, quoi. Et ça. Et il y a une phrase qui est géniale, qui est écrite sur mes carreaux de salle de bain tous les jours, je vois ça en me levant, qui fait le poison des hommes forts, c'est le besoin d'adoration des imbéciles. C'est la soif c'est la gloire dont ils ont soif. C'est une maladie qui est bête comme l'amour et jamais elle ne disparaît. Alors oui, effectivement, je vais pas te dire les dernières phrases de mon prochain spectacle parce que ce serait le dévoiler, mais ça parle de ça. Oui, c'est une faiblesse et c'est une faiblesse que j'assume. Voilà. Oui. Oui, c'est vrai, on parle souvent de ça avec Coste. Et Coste, il a pas. Coste, lui, il part du principe que l'œuvre est plus importante. Et que finalement, tant pis, quoi. Il sortira pas tout ça, mais qu'il aura fait l'œuvre. Puis il est quand même en même temps frustré, parce que quand il écrit « J'en ai marre de vendre 50 disques à 50 connards », il est frustré. J'assume, quoi. Je pense que le plus important, c'est l'œuvre, mais j'aimerais tant qu'à faire pas être connu de ma mort, quoi. Tu vois, d'avoir... On fait ça aussi pour communiquer avec les autres, c'est la première chose aussi. Hein. On reste un animal social. Hein. On a beau être Vaquette...
Allez, petit retour sur un siècle et demi de chansons françaises hardcore.
Oui, je voulais préciser par rapport à juste ce que je disais avant, que donc Vaquette ne s'intéresse pas qu'à Vaquette, et que ce spectacle-là, c'était aussi pour témoigner de ça, de dire que voilà, moi, il y a d'autres choses que j'aime. Et là, j'en ai trouvé 30 plages, j'ai trouvé, oui, là, on vient d'entendre les cadavres ou les berrues, oui.
Les deux, oui.
Les Ludwig, les cadavres, les berrues, même dans des choses de maintenant, Stinkels, je reprends un morceau de Branchement Bleu, qui est un groupe de rock auvergnat que personne connaît, qui est vraiment de maintenant, aussi bien que des trucs plus vieux, donc... moi, il y a plein de choses que j'aime. Par contre, oui, ce que je disais tout à l'heure, mais ce qui est emmerdant toujours, mon vieux discours, c'est qu'un siècle après, les gens ont bon goût. C'est-à-dire qu'un siècle après, ils confondent pas le copieur qui fait dans la mesure, qui aimerait bien, mais qui s'en donne pas vraiment les moyens, puis qui balance, mais un peu, mais pas trop, avec le mec qui arrive et qui avait des ennuis. Voilà. Et c'est marrant quand dans le moment présent, ben dis donc, c'est toujours les mauvais qu'on publie, c'est toujours les mauvais qui sont dans les maisons de disques, c'est toujours les mauvais qu'on diffuse, c'est toujours le mi-monde qu'on diffuse. C'est ça qui est insupportable. Parce que moi, je crache même pas sur Jennifer et toutes ces choses-là, ou Loana. De toute façon, plus il y aura de choses comme ça, plus ça m'amènerait du public si le monde était bien fait. C'est-à-dire que si les gens avaient à choisir entre des choses, des gens qui ont des choses à dire, c'est-à-dire Vaquette, et des gens qui n'ont rien à dire et qui font de la daube, il y aurait énormément de gens qui écouteraient Jennifer et pas Vaquette, mais il y aurait énormément de gens aussi, une minorité qui serait grande qui écouterait Vaquette. Ce qui me pollue le monde, c'est de faire croire que c'est sous-produit dans lequel il n'y a rien, c'est-à-dire rien qui puisse plaire. Parce que ça, c'est le plus grand crime en France. Si tu plais, tu fais de la merde, que tu fais de la variette, t'es Jennifer, mais aussi surtout rien qui puisse déplaire, dis donc. Hein, un truc où il n'y a rien, genre Jean-Louis Murat, tous les groupes dont je parlais tout à l'heure, La Tordue, toute cette demi-culture de Télérama, comme on dit de mi-mondaine, c'est-à-dire c'est vraiment le mi-monde. toute cette demi-culture Télérama, le monde, les arbres cultibles, toutes ces merdes-là, et que personne s'en rend compte, quoi. Je veux dire qu'on peut pas donner un prix littéraire aux gens qui ont concours ou tout ça, où il y a rien. Il y a rien, il y a pas de style, il y a rien à dire. Là, filons un prix au prix de Loana, au bouquin de Loana, tu vois. Au moins, on est dans le parjure et dans les normes, mais allons jusqu'au bout. C'est pas possible, quoi. Et ce qui est énorme, c'est que il n'y a pas une personne qui lit des livres qui peut croire que le prix Goncourt a été une année intéressant. Non, mais moi je suis très sérieux, c'est-à-dire que ça c'est l'imposture la plus grosse, le prix Goncourt. Il y en a d'autres dont je pourrais parler, j'en ferai maintenant, là t'abuses. Là, je pense que le Goncourt, tout le monde est d'accord, il n'y a personne qui peut croire, c'est nul. Je veux dire, ce qui est publié en France, quand les gens ils arrivent et qu'ils me refusent mon roman, il y a une maison d'édition qui a fait ça, qui m'a fait envoyer ça, l'auteur est complètement paranoïaque, l'auteur est très intelligent, foualié, complètement paranoïaque, mais non dénué d'une certaine dose d'humour, absolument impubliable.
Bah, c'est bien résumé, non?
Parce que Solaire, c'est publiable. Et encore, Solaire, admettons, ils vendent peut-être, mais tous les jeunes petits cons qui vendent pas, qui racontent leur petite vie de bourgeois dans le cinquième, là, qui n'intéresse personne, on se demande même si ça les intéresse eux, c'est écrit avec un balai de chiottes prétentieux, c'est-à-dire qu'ils croient bien écrire parce qu'ils sont académiques, alors qu'un artiste, il doit surtout pas être académique, c'est la première chose à faire. Tout le monde fait ça, ok, je le fais pas. Ça, c'est la première chose qui fait que t'es un artiste, c'est ça. Mais c'est vrai, hein, c'est vraiment le truc. C'est, oh, j'ai le son de mon époque, là, j'aime bien, tu comprends, contrebasse, accordéon, j'ai le son de mon époque. Bon, toi, déjà, t'es mauvais, tu dégages. Tu vois, tu rentres chez toi, on manque de combustible, moi, je me chauffe au bois, ça ne me dérange pas de me chauffer au mauvais. Viens me voir en Auvergne. Et ces impostures-là, mais c'est énorme. C'est énorme. Et le temps les balais, c'est-à-dire que c'est toujours les mecs, genre Ferré évidemment, Brassens, Brel, Léon Blois, Van Gogh, qui restent après coup et tout le monde fait c'est génial, et sur le moment personne les a soutenus. Tout le monde leur a craché dessus, et pendant ce temps-là on a fait vivre des espèces de parasites, quoi. Crevés, tous.
Alors, suite des aventures de Vaquette, puisque donc je dois faire ton agiographie prochainement, eh bien, à une époque...
Pourquoi t'as prévu ma mort prochaine assassinée par nos amis du Bétard ?
J'avais expliqué aux auditeurs que Vaquette était parti donc dans le centre de la France, se retirer dans une ferme, titiller les moustaches de José Bové ou écrire un livre.
C'était plutôt pour écrire un livre, oui.
Ah oui, ouais. Et alors ce livre s'intitule « Je gagne toujours à la fin ».
Voilà.
Écrit en combien de temps? On va être simple.
C'est la question bâtarde. C'est-à-dire que tu me poserais la question, par exemple, pour combien de temps j'ai mis pour monter « Je veux être grand et beau ». Je te dirais pareil, je ne sais pas, parce que on a passé un an, mais sur les un an, on a dû mettre peut-être 11 mois cumulés à apprendre à Vaquette le dur métier de la scène et du spectacle, le dur métier qu'on appelle de comédien. Donc les deux se sont mélangés, quoi. Mon excellent metteur en scène m'a un peu appris à être moins mauvais en même temps qu'on montait le spectacle. Donc c'est difficile de dissocier les deux. Mais le roman, ça a été un peu pareil. C'est-à-dire j'ai dû apprendre à écrire un roman, ce qui n'a rien à voir avec le fait d'écrire des petits trucs. Donc c'est difficile de savoir le temps que j'ai pris pour faire ça, parce que disons qu'en quantité, peut-être 70% ont été écrits en 3-4 semaines. Donc ça a été un moment très 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 vite. Et au début, ça a mis longtemps avant que je comprenne, que je réfléchisse. En même temps, j'habitais dans une ruine, je la rénovais.
En tapissant les carreaux de la salle de bain de citations écrites en noir sur rouge.
J'ai une salle de bain exceptionnelle. J'ai plus de 1200 carreaux peints à la main et cuits, qui représentent plus de 300 citations de tous mes auteurs préférés, ce qui va de Ludwig von 88, passe-moi les chips, j'ai soif, jusqu'à Wittgenstein, la volonté est une prise de position à l'égard du monde. Et entre autres, il y a une phrase de Jean Éternadier que je vois tous les matins en me levant qui fait seul le courage fait la différence. Mais j'ai mis des choses comme ça. Il y a un endroit
de phrase que tu vois tous les matins, c'est pas Jean Éternadier.
Oui, non, mais malheureusement. Il y a un endroit de ma salle de bain où j'ai mis les phrases comme ça, quoi. J'ai mis vent passe, j'aime bien chanter de plus en plus des choses que je comprends, c'est peut-être comme ça que je serai heureux. Nous savons une phrase de Brel aussi que j'aime beaucoup qui fait Jojo, nous savons tous les deux que le monde sommeille par manque d'imprudence. Ça j'aime bien. Et de l'autre côté, alors un petit peu plus bas forcément, j'ai mis la phrase pour les filles qui viendraient se doucher chez moi, comme ça elles comprennent pourquoi elles partent vite. Et j'ai mis par exemple Coste, c'est moi qui bande, c'est moi qui commande, c'est toi qui mouille, c'est toi qui douille. J'en ai mis quelques-unes. Oui. Il y a une phrase de très très belle aussi, je crois que c'est de Balzac, mais je suis pas sûr, qui fait
Ah, quand je pense à tout ce que vous devriez être pour m'estimer à ma juste valeur.
Et il y a un de tes lecteurs d'ailleurs qui recommandait de remplacer dans les écoles les dictées de Victor Hugo par du Vaquette. Ça te plairait ?
Sérieusement, oui, et je vais te dire pourquoi. Un des trucs je vais répéter ce que je disais tout à l'heure, un truc qui me fait vraiment vomir dans le monde. Moi, j'aime la culture parce que pour moi, c'est j'aime l'art. Mais la plupart des gens détestent l'art, au sens fort, mais aiment la culture, c'est-à-dire une obligation sociale, quoi, une norme sociale, quelque chose d'imposé devant lequel on doit s'accroupir. C'est exactement, voilà, les gens aiment bien les médailles et les militaires qui défilent, et ils n'aiment pas le courage. Alors moi, c'est le contraire, c'est ce que défend ce roman. C'est-à-dire que les gens aiment bien la résistance maintenant qu'elle a gagné et qu'elle est enseignée dans les écoles, mais le vrai résistant qui fout la merde, mais ils n'aiment pas les terroristes, quoi. Ça me fait beaucoup rire. Donc, si tu veux, étant donné que c'est le plus grand mensonge, comme Vaquette sera dans les écoles dans un siècle et demi ou dans deux siècles, autant le mettre tout de suite, ça serait un peu moins lâche et un peu moins conformiste.
Alors, une fois que tu avais fini ce bouquin, tu t'es dit « je vais le porter aux éditeurs » ou tu t'es dit « mais ils vont me jeter ».
Mais non, alors ça fait partie des Pauvert, avant de me refuser, m'ont vraiment, vraiment, vraiment couvert d'éloges et pour des bonnes raisons. C'est-à-dire, ils ont vraiment lu le roman plusieurs fois, ils ont passé 15 jours à parler que de ça. Et un des trucs qu'ils m'ont dit qui les avait plus fascinés dans le personnage, c'était ce mélange de naïveté et de rouerie. Je me souviens exactement de leurs mots, tu vois, c'est des gens qui parlent littéraire. Et je gagne toujours à la fin, c'est très naïf. Et en même temps, c'est pas si naïf que ça. Moi, je suis sûr que c'est vrai, ce que je disais tout à l'heure, que l'intégrité, le travail, le courage, la volonté, que les belles qualités qu'on nous vend et que personne ne fait jamais, Molière a dit la même chose et rien n'a changé depuis bien longtemps, c'est le principe de la société bourgeoise, ça d'ailleurs d'être d'un mensonge, d'être tout le temps dans le mensonge et tout le temps dans la lâcheté. Je suis persuadé que le talent paye à terme. C'est-à-dire que quand je suis arrivé dans ces maisons, et évidemment, je me rendais compte que c'était un pavé, que ça allait être dur, mais je me suis dit aussi, il y en a bien un là-dedans, qui va faire, attends, j'en ai marre de publier des merdes, quoi. J'en ai marre d'avoir honte de ce que je fais tous les jours. J'en ai marre de ça, j'en ai marre d'avoir rien fait de ma vie. Et d'avoir dédié ma vie à dire, je veux la transmission de la culture et de faire tout le contraire tout le temps. Je veux faire un moment, un acte. Je suis sûr que ça existe. Je suis sûr que c'est possible. Je suis sûr que c'est possible. Et dans le néant actuel, au bout d'un moment, il faudra bien, quand ils en auront marre de faire des compiles, en refaisant des compiles dans les maisons de disques, il faudra bien qu'ils sortent quelque chose qu'ils pourront compiler dans 20 ans. Et c'est pas les groupes de merde dont je parlais tout à l'heure qui vont compiler dans 20 ans, ni la Salvariet de George Jennifer. Le système, c'est ce que je défends vraiment en ce roman. C'est pas une phrase en l'air ou une phrase naïve de dire « Ah, je vais dire, je gagne toujours à la fin, puis c'est tout, j'explique pourquoi. » Au bout d'un moment, le monde, pour mettre des militaires dans la rue ou pour mettre des flics dans la rue, on n'a pas besoin de gens brillants, ni courageux, ni rien, ça c'est clair. Par contre, au moment de la résistance, là, on en a besoin. On va pas mettre monsieur tout le monde qui est flic, lâche et bête. Il va pas y aller à la résistance. Donc, on a bien besoin de gens. Pour faire des vraies chansons qui seront recompilées dans 20 ans, pour faire des soirées spéciales Brel ou des soirées spéciales Brassens, faut bien un Brel ou Brassens. On va pas faire des soirées spéciales Laurie. Désolé, ma chérie, excuse-moi. Des soirées spéciales Laurie dans 20 ans. C'est pas possible. Bon. Donc, le monde a un moment...
Attends. Ils font bien des soirées Chantal Goya et des trucs Casimir, hein.
Non, pas vraiment, ou pas sur le long terme. La société, à un moment, pour tenir, et c'est là où la société bourgeoise est très forte, et encore plus forte est la société américaine. Les Américains, c'est les rois, c'est pour ça qu'ils marchent. Les Américains, ils arrivent à avoir une société globalement d'une bêtise et d'une médiocrité énorme, mais où ils ont un profond, pas respect, mais un profond cynisme sur l'utilisation des élites. Les élites au sens où je l'entends, un élite c'est pas le bon élève pour moi, c'est des mecs qui vont pousser. C'est-à-dire qu'ils sont capables de dire, en France Eminem ça serait pas possible, voilà, en France Eminem il serait censuré, là-bas ils font, ça marche, ils nous critiquent, on a rien à foutre, ça c'est pas lui qui va faire que notre état s'écroule, on va faire de la thune dessus, on pourra le mettre dans des compiles dans 20 ans, ça fait fonctionner, on montre qu'on est intelligent et ouvert parce qu'on accepte la critique, ce qu'on accepte en France, ils sont beaucoup plus malins les Américains là-dessus, et on peut sortir ça. Et moi, je suis persuadé, voilà, qu'au bout d'un moment, le système, il peut que tenir, et la société bourgeoise, elle peut tenir, que si elle s'est récupérée, regarde comment on a récupéré Jean Edernallier depuis qu'il est mort. On parle plus de Jean Edernallier de la même façon.
Il est bien votre livre, mais il faudrait changer quelques chapitres.
Vas-y.
On te l'a dit, non ? Et comment as-tu réagi ?
On m'a pas dit ça, parce que c'est trop... Tu peux repérer des chapitres, je vois à quoi tu penses, qui sont provos sur le titre des chapitres, mais tout est hardcore. Tout est hardcore. Donc,
Le retour du maquette dans les salles.
Le retour du maquette dans les salles, je donne plus de date parce que tout le monde n'arrête pas de se plaindre en disant on veut. Ceux qui se plaignent, bon, je crois qu'ils ont compris depuis le temps, le roman, ça a été un boulot de fou. Ensuite, démarcher le roman, c'est un autre boulot. C'est vrai que pendant ce temps, les gens ne voient pas sur scène et ils font ah ben t'as disparu, c'est chiant, on veut te voir sur scène. C'est vrai que même les gens qui ont lu le roman et adoré, ben un roman tu le lis en une semaine, puis alors que la scène, t'as tout le temps des nouvelles, t'as l'impression qu'il se passe plus de choses. Bon, moi je voulais être là encore entre guillemets intègre et pas carriériste. J'avais envie de faire un roman, c'était important, donc j'ai fait un roman. Dans la mesure où il n'est pas publié dans une grosse maison d'édition, c'est vrai que ça fera pas d'actu. Maintenant que toute cette histoire commence à être finie, je vais me mettre vraiment à écrire Crever tout. Si les notes sont faites, je sais où je veux aller, je sais comment je veux faire. Faut que j'arrive à bloquer 3 mois en faisant que ça, ce qui n'est pas forcément évident. Et après, faut le monter, faut faire le décor, parce qu'on a une idée de décor avec Maître Jojo qui est une histoire de folie. C'est-à-dire qu'on veut faire une expo vaquette. On s'est dit que, comme je te disais tout à l'heure, que c'était un peu agaçant d'attendre toujours que les gens soient morts pour faire des expos. Donc on va faire une expo à la gloire de Vaquette et les gens suivront le spectacle dans l'expo à la gloire de Vaquette. Donc voilà, et qu'il faut qu'on fasse la mise en scène et tout, et je pense que ça va être j'espère pas trop tout public, parce que Crever tous, ça va être un bon début et que ça va insulter tout le monde. Donc ceux qui sont là pour dire l'un des plus grands freins à ma carrière, je vais essayer de pas trop déborder, l'un des plus, c'est 5 heures là.
Je
finis juste. Les plus grands freins à ma carrière brillante, c'est que les gens ils sont d'accord. Il y a plein de gens qui ont envie d'attendre du hardcore, qui sont d'accord. Ouais, balance, mais balance sur les autres quoi. Parce qu'entre nous quoi, on est libertaires, mais c'est les fachos quoi. Faut que tu craches sur les fachos. Et comme moi je trouve que c'est stupide, lâche et inintéressant de faire ça, c'est vrai qu'il faut avoir une certaine distance quand on vient voir ou lire mon travail, parce que
enfin,
moi, je suis là pour cracher sur les gens qui sont en face de moi quoi. Donc tout le monde s'en prendra dans la gueule, ceux qui pensent
d'ailleurs
premier
hein.
En question, ben oui,
les
j'espère
battes.
Moi aussi bien sûr, ben oui, sinon ça veut rien dire, bien sûr ça veut rien dire. D'ailleurs j'attends toujours que l'entarteur s'entarte, mais il a dû le faire ça je pense.
Ah,
s'il l'a pas fait, ça serait bien qu'il y pense hein.
Allez, on termine.
Attends, juste, et écoute, oui. Moi ce soir je vais voir un concert, je sais pas ce que ça vaut, mais ça a l'air gravissime. Ça s'appelle Mission Coran, genre musical, techno et terrorisme islamique. L'affiche est complètement gravissime. Attends, je vais te donner les coordonnées. Ça risque d'être complètement nul, hein, toujours ce genre de choses. Ça peut être nul et ça peut être. À mon avis, en tout cas, ça risque d'être top mauvais esprit. Ça s'appelle. Ça passe à la Cantada, 3 rue Moret. Cantada, 3 rue Moret, c'est à Ménilmontant, à 19h, 19h. Voilà, moi j'y serai, parce que si ça se trouve, bon, je pense que s'il y a 9 chances sur 10, ça soit nul, mais ça peut être génial aussi.
D'accord. Allez, on va conclure avec l'épisode numéro 6 du feuilleton proposé par Vincent Jarry, et puis dans quelques instants, c'est Bulle Noire, qui ne me pardonneront pas d'avoir débordé, mais je leur dis, c'est la faute à Vaquette, donc tapez sur lui.